L'heure de retrouver Thomas Cluzel. Bonjour Thomas, pour la revue de presse internationale avec une question ce matin. Et si la trêve en Ukraine n'était-elle plus qu'un lointain souvenir ?
Oui, depuis hier, les photos parues dans la presse de chars, de blindés, mais aussi de colonnes entières de camions sans plaque d'immatriculation et tractant tantôt des obusiers, tantôt des caisses de munitions, toutes ces images donc de véhicules convergeant vers le bastion pro-russe de Donetsk alimentent désormais la peur d'une escalade de la violence, ainsi que le titre notamment le Wall Street Journal. Alors, existe-t-il en effet un risque de reprise, de guerre totale, comme semble s'en inquiéter son confrère du New York Times, ou bien doit-on plus simplement se rendre à l'évidence et constater que la nouvelle escalade a déjà commencé, ou pire, que la guerre en réalité n'a jamais cessé en dépit de la trêve conclue le 5 septembre dernier. Toujours est-il que depuis hier, sous le regard même des observateurs de l'OSCE, remarque avec consternation le journal ukrainien Vysoki Zamok, les mouvements de troupes et de matériel depuis la Russie s'accélèrent. Les combats également se durcissent, les deux camps se livrant à de violents duels d'artillerie dans la ville de Donetsk, en particulier autour de l'aéroport, mais pas seulement, car la plupart des bataillons séparatistes se sont installés au cœur même des quartiers d'habitation. Ici, les vitres sont mises à rude épreuve. À chaque départ de missiles ou de mortiers, elles vibrent, certaines explosent, les alarmes de voitures se déclenchent et les chiens se mettent à aboyer. Le tout dans un brouillard tenace qui peine à quitter la ville. En d'autres termes, précise le temps de Genève, pour tous ceux qui habitent la ville, les tirs d'artillerie sont une loterie éreintante et surtout mortel. La semaine dernière, Daniel, 14 ans, et Artem, 18 ans, sont morts, touchés par un obus alors qu'ils jouaient au foot. De quoi raviver un peu plus encore la colère des habitants, et ce non pas contre les rebelles, à qui ils servent pourtant de boucliers humains, mais contre le gouvernement ukrainien. Les Ukrainiens, assis dans leur canapé à boire des bières, devraient envoyer leurs enfants vivre ici une semaine, et peut-être qu'alors ils accepteront de voir d'où viennent les bombes, s'est notamment exclamé le père de Daniel lors de l'enterrement de son fils. Un témoignage que le service de presse des séparatistes ainsi que les médias russes se sont d'ailleurs empressés de reprendre. Nikolai, lui, a échappé de peu à la mort aussi. La semaine dernière, un mortier est tombé devant son portail. Mon chien était paniqué par les grondements, alors je l'ai rentré dans la maison et au même moment, un obus a heurté le toit et a fini par exploser dans le jardin. Et d'ajouter, alors qu'autour de lui, tout a été perforé par les débris du mortier, sans mon chien, dit-il, les Ukrainiens auraient tué un civil de plus. Le deuxième acte de la guerre du Donbass semble donc bel et bien se préparer, et ce, même si, rappelle le journal, l'élection d'Alexandre Zakharchenko au terme d'un scrutin non reconnu le 2 novembre dernier symbolisait déjà à elle seule la mort clinique des accords de Minsk. Et puis, je vous le disais, ainsi qu'en témoignent depuis hier les photos donc publiées partout à la une des journaux, sur le plan militaire, jamais la situation n'a été aussi explosive, qu'il s'agisse de ces convois non identifiés, mais dont personne évidemment ne doute un seul instant de l'origine, mais pas seulement, puisque selon un conseiller des services secrets ukrainiens, la Russie aurait également envoyé des agents et des instructeurs dans les zones rebelles. Alors dans ce contexte, il est une déclaration qui en a surpris plus d'un le week-end dernier, à l'occasion du 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Mikhail Gorbatchev, l'artisan de la réunification allemande, mais aussi le père de la perestroïka soviétique, a vertement critiqué la politique étrangère européenne et soutenu le président Poutine. En d'autres termes, analyse le quotidien russe Gazeta, cité par le Courrier international, en s'exprimant quasiment à l'unisson avec le président russe, le réformateur soviétique, que l'opinion publique occidentale voit communément comme l'un des maîtres d'œuvre du monde post-soviétique, montre que lui-même, en tant que représentant de l'URSS et de la Russie, se considère aujourd'hui comme trahi par les élites occidentales. Et le problème, conclut l'éditorialiste, c'est qu'en Europe, on continue de l'écouter bien poliment, sans pour autant en tirer de conclusion. Alors, hasard du calendrier, hier, en raison d'un problème de dysfonctionnement de filtre dans une raffinerie, l'air de la capitale russe était empli d'une forte concentration de sulfure d'hydrogène, 6 fois supérieure aux limites admissibles et ressenties par les habitants dans plusieurs quartiers de Moscou. Plusieurs médias russes ont notamment diffusé des photos et des vidéos montrant en effet un épais brouillard dans certains quartiers de la capitale. Alors, dans les jours à venir, les conditions météorologiques devraient être a priori plutôt favorables à la dispersion de ces émissions dans l'atmosphère. Mais on rappellera tout de même que le sulfure d'hydrogène est un gaz inflammable, incolore, très toxique et qu'il a une forte odeur d'œuf pourri.